Du football maintenant au menu, les Alouettes entreprennent une nouvelle saison samedi en Colombie-Britannique contre les Lions, un match qui sera présenté à notre antenne. Et à deux jours de ce premier match-là, on a le plaisir de recevoir celui qui entreprend une deuxième campagne à la présidence des Alouettes, Patrick Boivin. Bonsoir Patrick.
Bonsoir Mario.
Comment ça va?
Ça va super bien, merci. Et toi?
Ça va très bien, merci. Merci d'être là. Excité d'être là pour amorcer une deuxième campagne avec les Alouettes et surtout curieux de voir comment peut-être un sentiment de progression va s'installer au sein de l'organisation et de l'équipe.
Je suis excité, j'ai hâte. On a certainement beaucoup à faire, tant sur le terrain qu'à l'extérieur du terrain, à redévelopper, si on veut, un nouveau fanbase puis ramener les partisans qui nous ont quittés là, à juste titre à travers les différentes saisons, les dernières saisons plutôt, qui ont été difficiles. Mais non, j'ai vraiment hâte.
Les premiers matchs très bientôt, évidemment, en fin de semaine, après deux matchs préparatoires, l'équipe qui va affronter les Lions de la Colombie-Britannique s'est présentée sur nos ondes samedi soir. Le premier match local la semaine suivante, le 22 juin. Parmi tout ce que vous avez fait depuis la dernière saison, Patrick, quels sont les éléments qui, pour toi, risquent d'amener des éléments les plus concrets par rapport à ce que vous voulez faire comme organisation, cette relance-là que vous voulez mettre en place, que vous mettez en place?
Mais écoute, ce qui est important de comprendre, c'est qu'il n'y a personne aux Alouettes de Montréal qui fait l'autruche non plus. On est très conscient que ça passe par le terrain. Une des choses qu'on a décelé à travers un exercice d'évaluation d'ADN là, de qui on était au cours de la dernière année, même voire au cours des 14 derniers mois, c'est qu'il y a beaucoup de cette association-là à notre organisation qui passait à travers deux choses. Principalement la victoire, et dans un deuxième temps, à travers les individus et les joueurs. C'est donc dire que nos partisans étaient fondamentalement liés au succès, mais à un très, très haut niveau, puis après ça, aux individus qui faisaient partie de ce succès-là. Fait que plus récemment, forcément, les Calvillo, Ben Caroun de ce monde, ainsi de suite. Et ce qu'on a établi, c'est qu'il fallait qu'on soit capable de diversifier ça un petit peu plus. Parce que dans le sport, tu as des cycles. Tu ne gagnes pas tout le temps, mais tu peux certainement être performant. Et on a besoin de renouveler ces héros-là, ces joueurs, capables de raconter leurs histoires, puis d'être capables de faire ça avec non seulement avec nos partisans existants, mais aussi avec toute une nouvelle génération de partisans.
De ce que tu vois sur le terrain à la suite des deux matchs préparatoires du camp Floride, du camp ici à Montréal, est-ce que tu es encouragé? Tu penses-tu qu'on a identifié quand même des éléments sur lesquels on peut bâtir sur le terrain?
Oui, puis je suis très confiant. En fait, je suis très content du travail que Kevis a fait au courant de la saison morte. On avait établi des objectifs très clairs par rapport à ce qu'on devait remplir comme trou, ce qu'on devrait remplir comme faiblesse. Mais c'était aussi adossé sur ce qui était disponible. Donc, ce qu'on pouvait faire, que ce soit avec des agents libres ou que ce soit au repêchage ou tout simplement avec des échanges qui étaient possibles et qui étaient mis devant nous. Et on a réussi à faire ça du côté défensif. On a réussi à s'améliorer quand même au niveau offensif, que ce soit sur la ligne ou que ce soit avec les alliés. Forcément, on n'a pas de corps établi. On est très confiant de ce que Drew est capable de faire avec notre unité offensive, mais on n'a pas de corps établi. Ça étant dit, il y a 4, peut-être 5 corps établis dans la ligue. C'est une ligue de 9 équipes, mais il y a l'autre deuxième moitié de la ligue qui ont des corps qui sont soit en développement ou qui gagnent à être encore plus établis. Fait que c'est un peu comme un gardien de but partant qui est un des meilleurs dans la ligue. C'est pas toutes les équipes qui en ont non plus. Tout le monde en cherche un, tout le monde cherche un centre numéro un. Donc, notre philosophie, c'est qu'on a des corps qui sont en développement, en qui on croit, qu'on va continuer de développer. Et contrairement à d'autres équipes, ben, on n'a pas le vétéran. Puis Drew Ely en est un vétéran, mais un vétéran établi qui peut servir de premier corps pour protéger ces jeunes-là qui sont en développement et les faire avancer. Fait qu'on est, on est un petit peu en arrière sur une courbe de développement, mais on est très confiant que la prochaine année, au maximum au courant de l'année prochaine, que Matt Schultz, entre autres, va avoir eu l'opportunité de jouer assez, puis va avoir la capacité de prendre cette équipe-là en main là, au cours des deux prochaines années.
Est-ce que tu sens, Patrick Boivin, que l'arrivée de Mike Sherman, là, c'est plus concret parce que là, les joueurs sont en contact quotidien avec le camp d'entraînement, puis les matchs préparatoires. Sens-tu que son arrivée rétablit une espèce d'autorité naturelle au sein de l'organisation? Est-ce que tu sens aussi l'attitude que vous souhaitiez voir chez les joueurs qui sont là cette année pour commencer? Peu importe là, qu'est-ce que la saison va nous réserver.
Écoute, c'est une autorité. Je pense pas que c'est autorité. Je pense que c'est tout simplement c'est une présence, c'est un coach naturel. Il a réussi à s'entourer avec des bons éléments aussi, là, évidemment, des coachs autour de lui. Mais il amène une authenticité dans la façon qu'il enseigne Il faut pas oublier que Mike, à la base, c'est un enseignant. Avant même de rentrer dans le football, c'est un enseignant. C'est un pédagogue qui, là, maintenant, a 25-30 ans, sous la cravate d'expérience en football. Fait que pour lui, la base fondamentale de ce qu'il fait à chaque jour, ça reste ça, c'est enseigner. Mm-hmm. Puis il est à un stade où il a vu puis il a compris assez de football, qui est capable de prendre un pas de recul, qui est capable de laisser la latitude à ses coordonnateurs qu'ils ont besoin. Puis là, lui, joue le rôle de capitaine de bateau. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas s'impliquer beaucoup plus dans la prise de décision en termes de jeu, par exemple, soit au courant de la saison, à partir de la saison prochaine. Mais pour l'instant, lui, forcément, doit continuer à bien comprendre puis à continuer sa propre progression au niveau de la game de la Ligue canadienne de football. Mm-hmm. Mais on est très, très bien installé, on est très, très bien dans celle. Et puis, il a amené une structure, il a amené un niveau d'imputabilité, il a amené un niveau de respect aussi. Puis c'est un respect mutuel. Tu ne peux pas imposer le respect. Mais il y a un respect mutuel qui s'est installé entre lui et ses coachs et entre lui et ses joueurs. Puis ça, ben, des fois, ça prend quelqu'un qui a 63 ans puis qui a passé à travers une coupe de guerre avant d'être capable d'avoir cette dynamique-là.
Parce que tu seras sans doute d'accord, malgré ton jeune âge comme dirigeant, bientôt 40 ans cet été, Patrick, que quand une équipe connaît des moments difficiles, ben on dirait que ça ouvre la porte. Puis c'est peut-être, je sais pas si c'est l'œuf ou la poule, qu'est-ce qui a commencé avant ou qu'est-ce qui s'est pointé avant. Il y a un relâchement parfois au niveau de la discipline de certains joueurs sur le terrain. Hors terrain, je ne sais pas comment ça se passe, mais en tout cas, c'est ce qu'on sentait ces dernières saisons, même avant que tu arrives, de ce qui sortait de chez les Alouettes, du mécontentement, un groupe qui n'était pas toujours uni. Alors, sens-tu que dans ce court laps de temps, tous les mots que tu as choisis pour qualifier là, ce qu'amène Mike Sherman, amène une ambiance sur laquelle tu es excité de construire?
Les joueurs de foot, comme n'importe quel athlète, veulent croire en quelque chose.
Oui, ben c'est sûr.
Et eux, comme nos amateurs, comme nos fans,
ils n'y croyaient plus.
Mais ils sont aussi très motivés. T'sais, leur passion, leur propre passion pour le sport, les mène, c'est ce qui les drive, là, en anglais. Puis c'est pas... c'est gagner, c'est performer, mais ultimement, encore plus dans la Ligue canadienne, là, vu la structure salariale, ainsi de suite, ces joueurs-là sont tous très, très passionnés par leur sport. Fait que quand il y a un petit peu moins de croyance, quand toi, tu commences à moins croire à ta capacité toi-même d'arriver ou à la capacité de ton équipe d'arriver à ses fins, à ses buts, ben ça vient éteindre un peu ton feu et ta passion. Puis si tu n'as pas ces éléments-là, on a beau après ça commencer à décortiquer et décrier les performances athlétiques d'un joueur ou d'un athlète.
Qu'est-ce que ça prend pour qu'ils y croient, les gars, Patrick? Qu'est-ce que les gars ont besoin pour y croire? Et ultimement, donc, évidemment, par contagion, éventuellement, les partisans. Quand on regarde une équipe gagner, permets-moi un petit flash, un parallèle. Ouais. À toutes les fois qu'on voit une équipe gagner, tu sais, t'enregistres les mots. C'est les paroles, tout sport confondu. C'est pas mal la même histoire. On était une famille, on était un groupe uni. We believed, on y croyait. Barry Trotz disait sur l'estrade, we had a vision. Mm-hmm. Et donc, mais ça, si on pouvait demander à tout le monde avant de jouer l'année, pas après qu'on ait gagné, mais de le dire, les boys, embarquez-vous à moitié, vous embarquez au complet. Hein?
Mais c'est une progression aussi.
Oui, mais
tu utilises l'exemple de Vegas. Vegas ont commencé leur saison avec un certain type de motivation. C'était un peu les discartés.
Moi, c'était Washington Trotz, mais oui, à même Vegas.
Moi, je prends Vegas comme exemple parce que c'est un autre exemple de hockey, mais c'était un peu les discartés. C'était les mal-aimés.
Oui.
Puis ils sont partis avec ça. Mais en plein milieu de la saison, je me souviens, c'était Marc-André Fleury qui le mentionnait. Il dit on n'est plus là. On a passé à d'autres choses. Pourquoi? Parce qu'on croit, on va appeler ça du momentum si on veut, mais on croit en la façon qu'on s'est développé comme équipe puis où on est rendu maintenant. Puis c'est plus par chance. On est rendu, tu sais, on a 8 défaites à domicile après 40-50 games. On est rendu là, puis c'est l'équipe qu'on est. Donc, que ça soit dans le football, que ça soit dans le hockey, c'est un petit peu la même chose. Il faut que tu sois capable de mettre la bonne structure en place, mettre les bons mots. OK, oui, tout à fait. Les bonnes
philosophies. Faut que tu trouves la guimauve qui fait tenir les Rice Krispies, Patrick, un peu, hein?
Ben, c'est ça. Mais il faut que ton leader, il faut que la personne qui soit à la tête de ça soit authentique dans la façon qu'il ou qu'elle le fait, que les gens y croient. Puis après ça, oui, c'est une question d'exécution. Mm-hmm. Mais ça se bâtit quand même. Fait que ça se bâtit à travers la petite préparation. La préparation vidéo, la préparation au camp, au mini-camp en Floride, la préparation pendant le camp d'entraînement. Donc, on est beaucoup moins sur les résultats. On est beaucoup plus sur comment on a décortiqué ce qu'on a réussi à accomplir pendant le camp d'entraînement, pendant les matchs préparatoires aussi, surtout avec les premières unités. Puis comment ces différents segments-là, ces différentes évaluations-là se cumulent ensemble pour que les joueurs, que l'équipe, que les différentes unités se bâtissent une certaine confiance, puis continuent à croire que le travail qu'ils font, qui est en partie dicté par le groupe d'entraîneurs, ben, va mener à la prochaine étape, qui est une victoire samedi. La prochaine étape après ça, qui est une victoire à notre premier match à domicile, etc.
Un slogan d'organisation, est-ce que c'est nécessaire? Je pense que plusieurs équipes en ont, tous sports confondus. Des fois, c'est à double tranchant. On se le fait remettre sur le nez quand l'équipe va pas bien, comme on se souvient tous du no excuse là, dans un passé pas très lointain chez le Canadien de Montréal. Quand ça tourne mal, ben, tu te le fais remettre d'en face. Créons l'étincelle. Quand il n'y a pas d'étincelle, tu te le fais remettre d'en face aussi. Les Alouettes ont choisi de nous présenter l'édition 2018 sous le slogan cette année « Toujours game
ouais. ».
Un choix volontaire, assumé, de jumeler un mot francophone avec un mot anglophone qui, on doit le dire, est quand même pas mal intégré dans le langage du monde du sport.
Ouais.
Mais explique-moi d'où ça part, puis qu'est-ce que ça incarne « Toujours game » chez les Alouettes. Vous êtes game de quoi cette année?
Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on a toujours été game. Donc, le slogan est en partie historique, est en partie très présent, puis ce slogan-là va durer encore pour plusieurs saisons. On parle d'un slogan, mais à l'interne, c'est un état d'esprit, c'est un state of mind. Et c'est quelque chose que les joueurs, qu'on a présenté aux joueurs on remonte quasiment à 6-5 mois, et autant les nouveaux venus que les nouveaux vétérans dans l'équipe, et qu'ils ont tous adopté, tu sais, la première seconde. C'est beaucoup dans la façon qu'on le présentait. Pourquoi on est toujours game? Ben, premièrement, le français et l'anglais, c'est en lien direct avec notre dualité et notre réalité montréalaise. Drôle d'anecdote, quelqu'un qui me mentionnait qu'à notre retour, qui était suite aux élections de 1995, que c'était une des seules places au stade Percival Molson où on était capable de voir, appelons-le, deux peuples réunis ensemble qui forcément avaient probablement voté de façon très, très différente dans les 12 mois précédents, mais réunis ensemble pour un but commun.
La beauté du monde du sport, hein? Ça,
ben, c'est ça.
Ça a le potentiel de rassembler.
C'est historique. C'est très historique, disons, dans les 5 à 6 dernières années. On est toujours game. Fait que malgré tout ce qui est arrivé dans les 5 dernières années, nos joueurs sont toujours game. Puis c'est pas un poème, là, mais on a une histoire qui vient avec ce slogan-là aussi, là, qu'on va commencer à distribuer, ces réseaux sociaux, des trucs comme ça. Mais il y a une histoire. Il y a une espèce de on va appeler ça une femme, si on veut. Okay. Qui vient avec ça.
Ah oui?
Oui. Je la connais pas par
cœur. OK.
je pourrais la sortir. Mais c'est... Tu sais, ce qu'on veut créer aussi cette saison, c'est qu'on veut absolument être identitaire à Montréal. Au Québec, mais on va commencer plus petit, on va commencer à Montréal, c'est qu'on se dissociait aussi de Montréal, surtout l'été. On fuyait même la personnalité de Montréal pendant l'été. On tenait pas à avoir des matchs pendant le Grand Prix, pendant le Festival de jazz, pendant les semaines de la construction, par peur que ça allait justement... et guérir du monde, puis que les gens allaient décider d'aller ailleurs au lieu de venir au match.
Que vous alliez en souffrir plutôt qu'en
qu'on allait
profiter.
En souffrir et que notre vente de billets, carrément, allait en souffrir. Puis, je dirais, probablement autour du début de la saison l'année dernière, où on avait notre match qui était un peu le début de la fin de semaine de la Saint-Jean, comme cette année. J'ai dit, pourquoi on n'embrasse pas ça? Pourquoi on serait pas le kick-off? Bon, le botté d'envoi pour la fin de semaine de la Saint-Jean. Pourquoi pas embrasser cette réalité-là? Pourquoi pas embrasser cette personnalité-là de Montréal, cette réalité-là de Montréal qui est hyper événementielle. Fait que c'est ce qu'on a fait cette année à la place. Et c'est ce qu'on fait dans toute notre approche culturelle. Fait que sur nos 6 premiers matchs, entre le 22 juin puis le 14 septembre, on a 5 matchs qui sont des vendredis soirs. Qu'est-ce qu'on fait? On devient le botté d'envoi de la fin de semaine.
Patrick Boivin, notre invité aujourd'hui. J'espère que vous passez de bons moments avec nous. On est de retour dans quelques instants pour la suite de cet entretien. Déjà de retour avec notre invité, déjà rendu tout presque à la conclusion de cette entrevue-là. Est-ce que tes attentes concrètes sur le terrain, est-ce que tes chiffres, comment tu nous les présentes?
On l'a pas chiffré tout simplement parce que ce qui est plus important pour nous, c'est d'avoir une progression, carrément hebdomadaire. Puis là, c'est d'avoir une progression pour faire le saut entre le camp d'entraînement de la pré-saison et le match de samedi, et après ça, de match en match. Puis là où on est très confiant, c'est que si on a cette progression-là, on va avoir une saison qui va nous permettre d'être satisfait, qui va nous permettre fort possiblement d'accéder aux séries éliminatoires. Mais il faut avoir cette progression-là. Il ne faut pas avoir de... Ça ne veut pas dire qu'on perd pas de match. Mais ça veut dire qu'on est capable, et nos fans sont capables de voir qu'on est en train de bâtir quelque chose. Et qu'il y a de la lumière au bout du tunnel.
Ça s'en va quelque part, là.
Le train s'en va quelque part, puis que les gens viennent à accepter le fait que, OK, ça va peut-être prendre un petit peu de temps, mais on va le voir au fur et à mesure là, pendant la saison. Mais au moins, il y a une direction. On a l'impression que ça avance, que ça progresse. Et puis, on n'est plus en train de se demander à chaque fois qu'on vient au stade ou qu'on regarde à la télévision ou on écoute aux radios, qu'est-ce qui va se passer? Tu sais, que les gens soient très conscients puis qu'il y ait une certitude du type de match qu'ils vont avoir, puis qu'ils sont capables de croire que cette équipe-là va continuer de progresser.
J'ai eu l'occasion de m'entretenir avec Michel Labrec, qui dirige les Destinées du Parc olympique, là, anciennement, qu'on appelle la RIO. Tu as eu des échos, sans doute, de l'entretien, je le devine avec ton petit sourire en coin. Donc, vous avez fait une demande pour présenter un match de la Coupe Grey au Stade olympique. Donc, 2020 ou 2023?
Ouais, 2023, ça serait loin. On aimerait ça ramener une Coupe Grey à Montréal. On aimerait ça faire partie d'une Coupe Grey à Montréal, on s'entend. Mais on aimerait ça ramener une Coupe Grey à Montréal le plus tôt possible. Les prochaines années sont déjà décidées. Fait qu'on travaille pour 2020, mais on n'a pas entamé un processus officiel encore.
Vous explorez?
Ce qu'on est allé faire, c'est qu'on a été chercher les validations qu'on avait besoin. T'sais, est-ce qu'on a tout le soutien qu'on a besoin de la ville, du provincial, justement, du RIO, du Parc olympique, de la STM, de l'aéroport de Montréal? On est allé chercher toutes ces validations-là.
Vous l'avez?
On les a. On les a tous.
C'est bon.
Tout le monde embarqué.
C'est attribué...
Mais là, le processus, en théorie, avec la Ligue, commencerait prochainement.
Des retombées économiques quand même considérables, un match de la Coupe Grey, Patrick Boivin.
Tout à fait.
Comment les quantifie-t-on là, maintenant, là, 2018? Je sais qu'on parlait peut-être de 100 millions. Je sais pas si c'est un chiffre qui résonne familier avec toi, des retombées de 100 millions au match de la Coupe Grey?
Ça me semble haut, je pense que c'est entre 50 et 100. Ce qui rend justement comme événement, mais en fait comme semaine d'événement, quelque chose qui est très intéressant pour une métropole comme Montréal. Nous, les chiffres qu'on a datent de la dernière Coupe Grey qu'on a faite en 2008, là, fait qu'ils sont un petit peu datés. Mais plus important que ça, je pense, vu la progression qu'on entrevoit avec cette équipe-là, on juge qu'on est dans la bonne période pour être capable de redonner son Montréalais aussi.
Et ça correspond, c'est cohérent avec le plan de 3 ans. Dans 3 ans, 2020, ben en principe, si tout va comme c'est mené, eh bien, on va avoir une équipe de plus en plus compétitive qui pourra aspirer à jouer un match de la Coupe Grey. Pourquoi pas le revivre à Montréal?
Exactement.
Ça ferait du bien de revivre ça. Patrick Boivin, bonne chance. Bonne saison 2018. On veut que ça marche. On le souhaite. On le souhaite tous. Merci beaucoup, Patrick. Donc, voilà, c'était Patrick Boivin, le président des Alouettes de Montréal. Un premier match samedi soir présenté sur nos ondes. C'est ainsi que s'achève l'émission de ce soir. J'espère que ça vous a plu. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci à toute l'équipe.